Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Fin du voyage du pape François en Terre Sainte, 3 jours à peine et une multitude d'événements, d'images fortes, de gestes inédits, de paroles courageuses sur des sites sensibles, chers aux religions monothéistes. Après la prière écuménique commune dimanche soir au Saint-Sépulcre, une première dans l'histoire, la journée du Saint-Père ce lundi à Jérusalem a été rythmée par des visites émouvantes, riches en symboles et porteuses d'espoir sur l'esplanade des mosquées, le mur des lamentations, le mémorial de Yad Vashem, le mont des Oliviers et le Cénacle. Présenté comme un déplacement à la portée essentiellement œcuménique, 50 ans après la rencontre historique entre le pape Paul VI et le patriarche orthodoxe Athénagoras, ce voyage a largement dépassé les attentes, aussi bien sur le plan politique que sur le plan interreligieux. Ce lundi, le pape François a condamné la tragédie incommensurable de la Shoah. Il a demandé le libre accès des croyants au lieu saint de Jérusalem. Il a appelé au dialogue entre musulmans, chrétiens et juifs, fustigeant la violence commise au nom de Dieu. Il a souhaité voir grandir l'intérêt des juifs et particulièrement des plus jeunes pour la connaissance du christianisme. Nous allons parcourir toutes les étapes de cette journée. Le pape François avait annoncé qu'il effectuerait un pèlerinage strictement religieux sous le signe de la réconciliation entre les églises d'Orient et d'Occident. Et pourtant, tout au long de sa visite, avec son langage vrai et direct, il a secoué les religions et la politique. Le Saint-Père avait marqué les esprits dimanche à Bethléem en récitant une prière muette au pied du mur de séparation et en invitant les présidents israéliens et palestiniens à prier pour la paix avec lui au Vatican. Ce lundi, il s'est encore adressé tour à tour au grand mufti de Jérusalem, aux 2 grands rabbins d'Israël, au président Shimon Peres, aux prêtres et aux religieux de la région. Il a déposé des fleurs sur la tombe du fondateur du mouvement sioniste. Il s'est entretenu en privé avec le premier ministre israélien et avec le patriarche œcuménique de Constantinople. Et avant de repartir pour Rome, il a célébré la messe avec tous les ordinaires de Terre Sainte dans un lieu controversé. Le Cénacle pour les chrétiens, tombeau de David pour les juifs. Pour renforcer son témoignage et son message, le souverain pontife avait choisi, dans un geste sans précédent, de se faire accompagner dans ce voyage par 2 de ses amis de Buenos Aires, un rabbin et un professeur musulman. Alors, voyage politique ou religieux, pour Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, le geste politique de ce pape, ça a été de venir en pèlerin à Jérusalem.
Je trouve que de situer ce voyage comme un pèlerinage, c'est un geste politique, parce que cela remet toutes les questions par ailleurs qui se posent autour de Jérusalem dans leur juste place. Pourquoi Jérusalem et Jérusalem ? Si l'État d'Israël existe, c'est parce que Jérusalem avait de l'importance pour le peuple juif. Si les musulmans sont tellement attachés à Jérusalem, c'est parce que Jérusalem est bien un lieu de pèlerinage pour eux, et il en va de même pour les chrétiens. Autrement dit, le fait de se situer en pèlerin, c'est pas vouloir passer à côté des politiques, c'est mettre les politiques devant la responsabilité qui fait de Jérusalem un lieu exceptionnel, unique, et ce qui éclaire l'ensemble des aspects du voyage. Et justement, remontrer aux politiques que le sens de Jérusalem est un lieu de pèlerinage, c'est leur montrer qu'il doit être au service de cette particularité de Jérusalem et non pas des pouvoirs qui peuvent mettre les religions au service de leur volonté de puissance.
Mgr Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, au micro de Bernard de Cotigny. Interrogé sur la tournure politique du voyage papal, bien qu'il ait annoncé à l'avance un pèlerinage strictement religieux, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a répondu que le pape François n'avait pas d'agenda politique, mais qu'il avait voulu ajouter des gestes significatifs à son programme, contre un mur qui ne conduit pas à la paix et contre le terrorisme qui tue les innocents. Il voit au-delà de la situation actuelle, a-t-il dit, et s'efforce d'indiquer des ponts. La matinée du pape François dans la ville poudrière de Jérusalem a donc été jalonnée de rencontres avec des dirigeants religieux musulmans et juifs. Après avoir visité le Dôme du Rocher, le plus vieux et l'un des plus précieux monuments de l'islam qui domine l'esplanade des mosquées, le pape François a lancé un appel pressant aux 3 religions monothéistes. Respectons-nous et aimons-nous les uns les autres comme des frères et des sœurs. Apprenons à comprendre la douleur de l'autre, que personne n'instrumentalise par la violence le nom de Dieu. Travaillons ensemble pour la justice et pour la paix. Devant le grand mufti, le président du Conseil suprême et le grand conseil musulman, le Saint-Père a invité les religions monothéistes à adopter la même attitude spirituelle qu'Abraham dont elles se réclament, une attitude qui est celle du pèlerin. Nous ne pouvons pas, a-t-il dit, nous limiter à rester fermés sur de nos convictions. Dans un discours plus politique, le grand mufti l'a pressé d'intervenir auprès d'Israël pour arrêter, a-t-il dit, l'agression contre les Palestiniens, leurs terres et leurs lieux saints.
Wassalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yad Vashem est le mémorial central de la Shoah pour le peuple juif, le dépôt le plus complet de documents et d'expositions sur l'extermination des juifs européens dans les camps nazis, un monument exceptionnel. Ce lundi matin, le pape François a parcouru à pied le périmètre du mausolée jusqu'à l'entrée de la crypte du souvenir où une flamme brûle éternellement auprès de cendres de victimes rapportées des camps d'extermination. Sur le sol, les noms symboliques de 22 lieux de mort. Ce n'est pas un discours mais une invocation poignante que le pape François a prononcée, une méditation sur l'homme à partir de la douleur de Dieu dont parle la Genèse. Adam, où es-tu ? Le reportage de notre envoyé sur place, Bernard de Cotigny.
Au Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, ce fut un moment particulier, d'une grande intensité, dans ce lieu qui rappelle au monde entier le génocide de 6 millions de Juifs. Une cérémonie ponctuée de gestes lents, de paroles prononcées avec douceur, de chants lancinants. Le pape, entouré du président Peres et du premier ministre Netanyahou, a d'abord écouté très recueilli un chœur de jeunes filles pour un chant d'une tristesse inouïe. Il a ensuite allumé la flamme du souvenir et a écouté une responsable du mémorial lui rappeler l'horreur du génocide, mais aussi l'espoir que l'on doit mettre dans l'avenir. De jeunes catholiques hébraophones ont alors déposé une couronne de fleurs jaunes et blanches avec le pape qui s'est recueilli en prière. Une lettre d'une Roumaine de 22 ans, morte dans les camps, a ensuite été lue. Une lettre qui exprimait toute la terreur de savoir que la mort était proche, le retour désormais impossible. D'autres chants, comme autant de pleurs et de lamentations, ont été entonnés, et au pape ont été présentés 6 survivants des camps de la mort, 4 hommes et 2 femmes. Le pape leur a embrassé les mains et les a écoutés un par un. Il a ensuite pris la parole, très ému, pour un discours très beau sous forme de prière, un texte rempli d'interrogations face à la tragédie incommensurable de l'Holocauste.
Adam, où es-tu ? Je ne te reconnais plus. Un cri qui se perd dans un abîme sans fond en face de la tragédie incommensurable de l'Holocauste. Le père connaissait le risque de la liberté, il savait que le fils aurait pu se perdre. Mais peut-être, pas même le père ne pouvait imaginer une telle chute, un tel abîme. Qu'est-ce que tu es devenu ? De quelle horreur as-tu été capable ? Non, cet abîme ne peut pas être seulement ton œuvre, l'œuvre de tes mains, de ton cœur. Qui t'a corrompu ? Qui t'a défiguré ? Qui t'a inoculé la présomption de t'accaparer le bien et le mal ? Qui t'a convaincu que tu étais Dieu ? Du sol s'élève un gémissement étouffé. Prends pitié de nous, Seigneur. À toi, Seigneur notre Dieu, la justice. À nous, le déshonneur au visage, la honte. Un mal jamais survenu auparavant sous le ciel s'est abattu sur nous. Maintenant, Seigneur, écoute notre prière, écoute notre supplication, sauve-nous par ta miséricorde, sauve-nous de cette monstruosité. Donne-nous la grâce d'avoir honte de ce que, comme hommes, nous avons été capables de faire, d'avoir honte de cette idolâtrie extrême, d'avoir déprécié et détruit notre chair, celle que tu as modelée à partir de la boue, celle que tu as vivifiée par ton haleine de vie. Jamais plus, Seigneur, jamais plus.
Mai più, Signore. Mai più.
Le pape a ensuite signé le livre d'or et a reçu la reproduction d'un tableau « Prayer » peint par un garçon de 14 ans du ghetto de Lodz en Pologne qui est mort à Auschwitz et qui avait dessiné son rêve, celui de s'envoler de cet enfer. Un ultime chant a été entonné pour un dernier moment de grande émotion. Durant cette matinée de lundi décidément très chargée, le pape a aussi rencontré les deux grands rabbins d'Israël. Il les a assurés que pour les catholiques existe certainement l'intention de considérer pleinement le sens des racines juives de leur propre foi. Côté juif, le pape a dit espérer un intérêt croissant pour la connaissance du christianisme et spécialement parmi les jeunes générations. Plus tôt, comme ses prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI, le pape était allé se recueillir au mur occidental. Comme c'est la tradition, le pape a glissé un bout de papier entre les pierres de ce lieu saint du judaïsme avec pour simple message « Le Notre Père » en espagnol écrit de sa main. Le pape a alors fraternellement embrassé le rabbin Abraham Skorka et le professeur musulman Omar Aboud, ses deux amis argentins de Buenos Aires qui l'accompagnent durant ce voyage en Terre Sainte. Geste fort qui fera date, ces trois hommes se tenant par les épaules, le chrétien, le juif, le musulman, là devant le mur des Lamentations. François s'est aussi rendu au cimetière national du Mont Herzl, où il a fait déposer une grande gerbe sur la tombe du père fondateur du sionisme. Sur requête du premier ministre israélien, il est allé enfin se recueillir devant le monument des victimes israéliennes du terrorisme.
En fin de matinée, le successeur de Pierre a été reçu par le président Shimon Peres avant d'accueillir à son tour Benjamin Netanyahou à Notre-Dame, une propriété du Vatican. À l'entrée du palais présidentiel, Shimon Peres lui a présenté des enfants cancéreux en phase terminale qui avaient exprimé le désir de le rencontrer avant de mourir. Hélène Détombe.
Le président Peres et le Saint-Père, qui entretiennent des relations très chaleureuses, ont eu un entretien en privé plus long que prévu, qui s'est déroulé, selon le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, dans un climat détendu et prometteur. Ils ont planté ensemble un olivier symbole de paix dans les jardins de la présidence israélienne. Le pape François en a profité pour demander que tous les croyants, pèlerins et résidents puissent accéder librement au lieu saint et participer aux célébrations. Tout en condamnant une nouvelle fois l'antisémitisme sous toutes ses formes, le Saint-Père a également appelé à l'arrêt de la violence et des manifestations d'intolérance contre des personnes ou des lieux de culte juifs, chrétiens et musulmans. Les lieux saints, a-t-il dit, ne sont pas des musées ou des monuments pour touristes, mais des lieux où les communautés de croyants vivent leur foi, leur culture, leurs initiatives caritatives. Aussi doit-on perpétuellement les sauvegarder dans leur sacralité, protégeant ainsi non seulement l'héritage du passé, mais aussi les personnes qui les fréquentent aujourd'hui et les fréquenteront à l'avenir. Il a souhaité que resplendisse pleinement la valeur religieuse et culturelle universelle de Jérusalem comme trésor pour toute l'humanité.
Selon l'agence Immédia, le pape François a renoncé au déjeuner qu'il devait prendre avec sa délégation pour aller partager son repas avec les franciscains de la custodie de Terre Sainte dans leur réfectoire à l'intérieur des remparts de la vieille ville de Jérusalem. Au cours de cette troisième et dernière journée, le Saint-Père a rencontré également de nouveau des religieux de différentes confessions chrétiennes. Dimanche, une prière commune, empreinte de solennité et d'émotion, s'était déroulée à la basilique du Saint-Sépulcre en présence des patriarches des 13 églises catholiques et orthodoxes présentes à Jérusalem et des représentants en protestants et anglicans. Auparavant, le pape François avait signé avec le patriarche Bartholomée une déclaration commune appelant à progresser dans le rapprochement entre catholiques et orthodoxes. Le pape François et le patriarche Bartholomée se seront vus 4 fois en 3 jours. L'église de Gethsémani, située près du jardin des Oliviers, est confiée à la custodie de Terre Sainte. Au pied de l'autel se trouve un objet de dévotion, le rocher sur lequel Jésus a prié avant d'être arrêté. Un lieu sanctifié par son angoisse et sa sueur de sang. Nous entrons sur la pointe des pieds dans cet espace où s'est décidé le drame du monde, a affirmé le pape François. C'est à l'intérieur de cette église qu'il s'est adressé en début d'après-midi aux prêtres religieux, religieuses et séminaristes de Terre Sainte au cours d'une brève rencontre en latin, arabe et italien. Le Saint-Père les a invités à ne pas se laisser vaincre par la peur et le découragement. Il a insisté sur l'importance de leur présence sur cette terre bénie. « C'est un don et une responsabilité », leur a-t-il dit. « Toute l'Église vous est reconnaissante et elle vous soutient par la prière. » À la fin de cette rencontre, le Saint-Père a planté un olivier dans le jardin de l'Église, tout près d'un autre olivier planté par Paul VI le 4 janvier 1964. Il ne s'agit pas d'un olivier quelconque, mais le résultat d'une bouture faite dans l'un des 8 arbres millénaires du jardin qui, selon des recherches récentes, ont tous la même empreinte génétique. Dernière étape de ce pèlerinage, une messe avec les évêques de Terre Sainte au Cénacle, un site controversé qui cristallise les tensions dans la ville sainte. Tout autour, le dispositif policier était particulièrement important ce lundi soir. Des juifs ultra-orthodoxes et nationalistes avaient récemment multiplié les rassemblements aux abords du Cénacle pour dénoncer cette célébration par le pape François d'une messe avec les évêques catholiques de Terre Sainte. Ils ont été éloignés jusqu'à la fin de la visite papale. Cyprien Viette.
Pour les chrétiens, c'est le deuxième lieu le plus saint après le Saint-Sépulcre. C'est à cet endroit, à l'extérieur des murailles de la vieille ville, qu'a eu lieu la dernière scène pendant laquelle fut instituée l'Eucharistie. C'est là aussi que s'est déroulée la descente de l'Esprit-Saint à la Pentecôte. Les chrétiens y ont libre accès, mais ne peuvent y prier ou célébrer des messes, car pour les juifs, l'édifice abrite le tombeau du roi David. Quant aux musulmans, ils y avaient construit une mosquée jusqu'à ce que l'armée israélienne conquière le mont Sion en 1948. C'est l'un des lieux les plus blessés de la Terre Sainte, a lancé le père Pizzaballa, Sala, responsable de la custodie de Terre Sainte, au cours de la messe du pape. Il n'y a pas de basilique pour garder ce lieu. Dans son homélie, le souverain pontife s'est quant à lui attardé sur tout ce que le cénacle incarne, le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie, la Pentecôte. D'ici par l'Église en sortie, animée par le souffle vital de l'Esprit, a-t-il dit, l'occasion d'exhorter une nouvelle fois l'Église à sortir sans oublier ses origines. Sortir, partir ne veut pas dire oublier, a-t-il précisé. L'Église en sortie garde la mémoire de ce qui est arrivé ici. Le Saint-Père a assuré enfin les patriarches orientaux qu'ils avaient une place spéciale dans son cœur et dans sa prière.
Alors que le pèlerinage du pape François en Terre Sainte prend fin, il n'est pas inutile justement de se poser la question du futur des chrétiens d'Orient. Doit-on craindre leur diminution inexorable ? Leur situation se pose-t-elle dans les mêmes termes que l'on soit en Irak, en Syrie, au Liban, en Égypte ou en Terre Sainte ? Nous avons posé la question à Antoine Fleifel, théologien et philosophe franco-libanais, maître de conférences à l'Université catholique de Lille. Il a publié « Géopolitique des chrétiens d'Orient ».
Très compliqué. On parle toujours de la mort des chrétiens d'Orient, de la disparition des chrétiens d'Orient. Alors, chrétiens d'Orient est un générique qui ne veut rien dire, parce qu'il faut comprendre la situation des chrétiens de cette région. Il faut aller voir dans chaque pays ce qui se passe. Effectivement, vous évoquiez l'Irak. L'Irak est le contexte le plus difficile pour les chrétiens de la région. Et c'est peut-être le seul contexte où nous pouvons craindre une certaine disparition d'ici quelques années si la situation sécuritaire ne change pas. Mais en dehors de l'Irak, loin de là, en Égypte, il y a une grande masse de chrétiens, 6 ou 7 millions, qui sont loin de disparaître, mais certes, ils vivent des situations que nous souhaitons largement meilleures et qui ont trait au manque de citoyenneté. C'est à ce plan que les chrétiens d'Égypte sont discriminés. En Syrie, certes aussi, les chrétiens vivent des situations très difficiles à cause des événements, mais comme les autres Syriens, ils vivent des situations difficiles, et comme les autres Syriens, après cette guerre, que j'espère finir le plus vite possible, ils auront à rebâtir avec les autres la Syrie de l'avenir. Mais non, il y a des difficultés, mais ces difficultés, ces chrétiens les vivent depuis plusieurs décennies, même depuis plusieurs siècles.
Il est bon de rappeler, selon vous, que finalement les chrétiens, la plupart du temps, souffrent autant que les populations locales lors de conflits ou de soulèvements ou de turbulences.
Ils souffrent parfois moins que les populations locales. En Irak, pour chaque chrétien qui meurt à cause d'un acte de violence, il y a plusieurs dizaines de musulmans qui meurent à cause des actes de violence, notamment des chiites. Et en Syrie aussi, il ne faut pas croire que les chrétiens sont pris pour cible. Ils l'ont peut-être été dans certaines circonstances très particulières, mais la violence qu'il y a en Syrie touche tout le monde et il y a largement plus de musulmans qui sont morts, même proportionnellement en Syrie, que des chrétiens. Alors qu'en Égypte, nous ne pouvons pas parler d'une telle situation, puisque le cas n'est pas un cas de guerre, même si, ça et là, il y a des violences qui coûtent la vie à certains.
Concrètement, si l'on veut aider les chrétiens d'Orient, ça veut dire quoi concrètement ?
Alors, du point de vue de l'Occident, il y a une aide qui est possible. Premièrement, c'est la solidarité morale, certainement, et la prière. Et là, je parle un langage de foi. Mais l'aide aussi peut être une aide financière en appuyant des missions, en appuyant des institutions scolaires, des institutions humanitaires, des universités, et aussi en faisant une certaine pression auprès des pouvoirs politiques occidentaux qui ont comme partenaires des pouvoirs politiques arabes et donc de faire de manière à ce que ces pressions occidentales poussent les partenaires arabes à respecter les minorités chrétiennes qui existent dans leur pays, dans le sens de plus de liberté, surtout, et là je rejoins l'un des points majeurs de la politique du Saint-Siège, pour la liberté de conscience, qui reste l'un des problèmes majeur qu'affronte une grande partie de ces chrétiens qu'on dit d'Orient.
Depuis une dizaine d'années, on s'inquiète beaucoup de l'exode des chrétiens. On peut imaginer que cet exode, finalement, n'est pas inexorable.
Alors, il y a une saignée en Terre Sainte qui dure depuis plusieurs décennies. Effectivement, la démographie des chrétiens, soit en Palestine, soit en Israël, atteint des proportions très petites, presque 1% de chrétiens en Palestine, un peu plus, et un peu plus de 2% en Israël. Mais il paraîtrait aussi que cela se stabilise, peu ou prou.
Le théologien et philosophe franco-libanais Antoine Fleffel, interrogé par Bernard de Cotigny. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.